Journal présenté par Anne Fauconberg. Bonsoir.
Bonsoir Mélanie, bonsoir à tous. Le scandale des œufs contaminés continue de s'étendre au sein de l'Union européenne. Le Luxembourg et la Roumanie sont désormais concernés, tandis que l'enquête progresse en Belgique et aux Pays-Bas, responsables de l'utilisation frauduleuse de l'insecticide incriminé. Le point avec Laxmilota au début de ce journal. Et puis en France, l'association Food Watch, spécialisée dans l'alimentation, exige d'attendre les résultats des investigations avant de rassurer les consommateurs. À l'étranger, au Kenya, l'opposition demande toujours de proclamer la victoire de Raila Odinga. Les résultats définitifs qui placent le chef de l'État sortant, Kenyatta, en tête de la présidentielle sont attendus à partir de demain midi. Nous serons sur place avec notre correspondant Bruno Meyerfeld. Et puis nous détaillerons le théâtre d'opération surréaliste qui est en train de dessiner la Corée du Nord pour menacer l'île américaine de Guam dans le Pacifique. Analyse à suivre d'Éric Biegala. Au sommaire du grain d'été, Mélanie Chalandon.
Eh bien, nous reviendrons sur la dernière proposition du gouvernement en matière de politique migratoire. Examiner les demandes d'asile directement en Afrique avant que les migrants ne prennent la route. Mais peut-on vraiment externaliser la politique migratoire? Nous en débattrons avec Jacques Legendre, sénateur du Nord, Les Républicains, Sylvie Guillaume, eurodéputée PS, et Speranta Dumitru, chercheur spécialiste des politiques d'immigration.
Merci Mélanie et à tout à l'heure, 18h15. Le scandale des œufs contaminés touche ce soir deux nouveaux pays de l'Union européenne. Il s'agit du Luxembourg et de la Roumanie qui sont donc concernés par l'utilisation frauduleuse du fipronil, insecticide interdit pour les élevages de poules et qui a pourtant été utilisé par des sociétés de désinfection agricole aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne. Même si les risques pour la santé des consommateurs semblent limités, les pays de l'Union européenne continuent d'évaluer scrupuleusement leurs importations. C'est ainsi que le Royaume-Uni annonce avoir reçu 700 000 œufs contaminés et non plus seulement 20 000. Deux enquêtes pénales sont ouvertes aux Pays-Bas et en Belgique, enquête qui progresse à grands pas. Deux personnes ont été interpellées aux Pays-Bas aujourd'hui, Laxmilota.
Deux dirigeants de la société néerlandaise qui a utilisé le produit contenant du fipronil dans les poulaillers ont été interpellés selon le parquet néerlandais. Les deux individus se trouvaient dans le village où est basée leur compagnie Chickfriend. Ils sont soupçonnés de détention de produits interdits et de menaces à la santé publique. Par ailleurs, plusieurs perquisitions ont eu lieu aux Pays-Bas, mais aussi en Belgique. Au moins 11 entreprises étaient visées un peu partout dans le pays, a indiqué le parquet d'Anvers. Elles sont spécialisées dans la désinfection des exploitations avicoles. Des échantillons ont été prélevés dans des élevages, mais aussi sur les machines des entreprises. Le scandale alimentaire fait l'objet d'une enquête pénale dans les deux pays. Deux sociétés sont pointées du doigt, la néerlandaise Chickfriend et son fournisseur belge Poultrivision. Près de 6 000 litres de produits interdits ont été saisis en juillet, toujours selon le parquet d'Anvers. Il ajoute, le dirigeant de Poultrivision a été entendu le mois dernier, puis relâché sous strictes conditions. L'agence néerlandaise pour la sécurité alimentaire et le parquet néerlandais ont formé une équipe d'investigation conjointe avec les services d'enquête belges, une équipe soutenue au niveau européen par Eurojust et Europol qui coordonne justice et police. L'enquête se poursuit, conclut le parquet belge.
Correspondance à Bruxelles, signée Laxmilota. En France, le ministère de l'Agriculture annonce des investigations sur l'ensemble des fabricants d'ovoproduits, ces aliments transformés à base d'œufs par l'industrie agroalimentaire, fabricants qui sont au nombre de 80 dans le pays. À ce stade, le ministère assure que les contrôles montrent que même dans les produits contaminés identifiés, il n'y a pas de risque pour la santé humaine dans des conditions de consommation habituelles, précise toutefois le communiqué. Affirmation prématurée, estime l'association Food Watch, spécialiste de l'alimentation. Sa responsable de campagne, Mégane Gorbani, demande à ce que les résultats précis des enquêtes en cours soient connus avant de rassurer les consommateurs.
Nous, on attend d'avoir les résultats. On voudrait avoir notamment les teneurs en fait de fipronil dans les produits qui sont testés, connaître aussi quelles sont les entreprises, les marques impliquées, etc. Mais on voudrait surtout connaître les mesures exactes parce que aux Pays-Bas, l'agence néerlandaise chargée de la sécurité alimentaire et sanitaire a divulgué que des dizaines d'entreprises auraient fourni des œufs à teneur en fipronil supérieur au seuil journalier toléré pour les enfants. C'est-à-dire aussi que les risques sont différents en fonction du poids et en fonction que l'on soit un enfant ou un adulte. Donc tous ces éléments-là aujourd'hui nous manquent. Il y a ensuite des produits transformés, donc qui contiennent des œufs. Il y a des produits qui ont été transformés aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique. et qui sont ensuite importés, mais il y a aussi des produits qui sont transformés en France et donc qui peuvent potentiellement contenir du fipronil. Aujourd'hui, encore une fois, le plus grand message qu'on porte, c'est qu'on n'a pas les éléments. On ne sait pas si on doit arrêter de consommer des œufs, on ne sait pas si on doit arrêter de consommer des produits qui contiennent des œufs, et on ne sait pas si les œufs qu'on consomme sont sains ou qui contiennent du fipronil, et quelle est la teneur en fipronil de cas échéant. Nous, on est vraiment dans une action de vigilance qui demande à ce que d'abord on a les informations, et ensuite on évalue les risques en fait.
Mégane Gorbani de l'association Foodwatch, des propos recueillis par Marie Viennot. Le groupe Les Républicains de l'Assemblée nationale a saisi le Conseil constitutionnel concernant la loi sur la moralisation de la vie politique qui vient d'être votée. Les députés LR dénoncent notamment l'interdiction des emplois familiaux de collaborateurs, interdiction qui introduit selon eux une discrimination à l'embauche. Ils mettent aussi en cause l'imprécision du projet de création d'une banque de la démocratie destinée à financer les prochaines campagnes électorales. En Ile-de-France, les dossiers en retard s'accumulent à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. La CNAV réduit en effet ses effectifs, 730 postes supprimés depuis 3 ans. Résultat, plus de 40% des dossiers en région parisienne ne sont pas traités. Et au bout de la chaîne, des dizaines de milliers de retraités ne touchent pas leur pension. Bonsoir Laure Verneau.
Bonsoir.
La CGT de la CNAV vient de s'emparer de ce dossier.
Oui, les syndicats publient aujourd'hui un communiqué pour dénoncer ce manque d'effectifs. En cause, les restrictions budgétaire. Depuis 10 ans, il y a fermeture progressive de tous les points d'accueil physique et la suppression des postes de conseillers. En parallèle, tout est devenu informatisé. Les assurés sont encouragés à déposer leurs dossiers sur Internet. En fait, les algorithmes sont vus comme une façon de réduire les coûts capables de remplacer les agents. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas prendre en compte tous les facteurs. C'est ce qu'explique Pascal Santoni, membre du Bureau national de l'Union confédérale des retraités CGT.
Le traitement des dossiers prend beaucoup plus de temps qu'avant. Pour vous donner un chiffre, en 2009, il fallait 15 jours pour traiter un dossier de dépôt de demande de retraite. En 2014, c'est 24 jours. Ensuite, il y a une difficulté également supplémentaire, qui est la complexité même des dossiers. Lorsque la majorité des salariés qui partaient à la retraite avaient eu une carrière unique avec un ou maximum 2 employeurs dans sa carrière, c'était relativement plus simple.
Oui, mais maintenant, avec la précarisation globale de l'emploi, beaucoup de jeunes retraités arrivent avec un bagage différent, anciens chômeurs, au RSA ou en ayant cumulé plusieurs emplois intérimaires, autant de nuances dans leur parcours que l'informatique ne peut pas traiter. Il faut dire aussi que beaucoup de retraités ne sont pas très à l'aise avec le tout numérique et préfèrent largement rencontrer leurs conseillers. Pour donner un ordre d'idée, il y a actuellement en Ile-de-France une 40aine d'agents et 9000 appels par jour à traiter. La CNAV Ile-de-France n'est pas la seule touchée. Il y a aussi celle de Marseille, de Rouen, celle de Perpignan. Jusqu'à 2016, la CNAV ouvrait 8000 dossiers par an. Le rythme est passé à 10 000 cette année.
Merci Laure Verneau pour votre suivi de ce sujet. Au Kenya, les observateurs internationaux appellent à la patience alors que des tensions se font jour après le scrutin présidentiel du début de semaine. La commission électorale du pays ne pourra pas annoncer les résultats définitifs avant demain midi, mais les chiffres provisoires placent toujours en tête le chef de l'État sortant Kenyatta avec 44% des voix contre son rival Odinga qui aurait rassemblé 54% des voix. L'opposition continue toutefois à dénoncer des fraudes. Le camp de Raila Odinga a même organisé une conférence de presse tout à l'heure pour s'en expliquer, Bruno Meyerfeld.
Oui, une conférence de presse a été donnée finalement en fin d'après-midi aujourd'hui, avec tout de même 7 heures de retard sur le planning prévu. Mais Raila Odinga n'a pas dit un mot. Il est resté en retrait, le regard rouge, fatigué, l'air plutôt ténébreux, et a laissé ses lieutenants parler, comme son directeur de campagne, Musalia Mudavadi. Alors, pour résumer, l'opposition rejette aujourd'hui totalement les résultats provisoires publiés en ligne. Elle affirme toujours que le serveur de la commission électorale a été piraté le jour même du vote, et affirme qu'Odinga a bel et bien gagné la présidentielle avec plus de 8 millions de voix contre 7 millions à Uhuru Kenyatta. Les leaders de l'opposition demandent donc à la commission électorale tout simplement de déclarer Odinga vainqueur et à ses supporters de rester calmes, en tout cas pour l'instant. Alors tant pis si les procès-verbaux examinés en ce moment même par la commission électorale sont tous signés dans chaque bureau de vote par les partisans d'Odinga. Tant pis aussi si la commission affirme qu'aucun piratage n'a réussi le jour du vote. Et tant pis pour tous les observateurs internationaux qui ont déclaré dans la journée que les élections s'étaient plutôt bien passées. Pour Odinga et ses fidèles, en fait, plus c'est gros et mieux ça passe. L'opposition refuse d'ailleurs de dire d'où viennent ses propres chiffres. Elle affirme tirer ses informations, je cite, « de sources confidentielles à la commission électorale », sans donner plus de détails. Pour les leaders de l'opposition, il faut donc croire Odinga sur parole. Pour eux, c'est Raila ou rien.
Correspondance à Nairobi de Bruno Meyerfeld. L'Union européenne allonge sa liste noire des ressortissants nord-coréens touchés par des sanctions dans le cadre de la dernière résolution de l'ONU. Les 28 augmentent régulièrement les gels des avoirs et les restrictions de déplacement à l'égard de personnes bien identifiées, personnes qui sont désormais au nombre de 103. Des sanctions qui semblent n'avoir que peu d'effet sur le régime de Kim Jong-un, tout comme les menaces de Donald Trump qui a promis au chef de l'État nord-coréen le feu et la fureur. Bonsoir Eric Biegala.
Bonsoir Anne.
Loin de diminuer d'un ton, Pyongyang semble se moquer des États-Unis et précise son plan d'attaque contre l'île de Guam, territoire américain du Pacifique.
Oui, et il a aujourd'hui été tellement bien précisé ce plan d'attaque qu'on ne peut même plus parler d'un plan d'attaque. À vrai dire, quand on se dispose à attaquer quelqu'un, on prévient rarement à l'avance et on ne donne jamais ce type de précision à l'adversaire. Selon l'agence officielle de Pyongyang, citant le général en charge des forces stratégiques nord-coréennes, dans les 5 prochains jours et après validation du tir par... Et après validation du tir par Kim Jong-un lui-même, 4 missiles Hwasong-12 seront lancés en direction de Guam. Ces vecteurs parcourront 3356 km et demi en 18 minutes, survolant 4 provinces de l'archipel japonais avant de s'abattre en mer à 30 ou 40 km de Guam, a détaillé le général Kim Rak-gyom. Le type d'arme, la trajectoire précise et donc les altitudes successives des 4 missiles, la zone d'impact prévue et la fenêtre de tir, tout y est. En clair, il ne s'agira donc pas d'une attaque sur Guam, mais bien d'une démonstration de la capacité de la Corée du Nord à pouvoir lancer une attaque de ce type. Et d'ailleurs, la réussite d'une telle démonstration n'a rien de garanti. Des missiles du type Hwasong-12, la Corée n'en a jamais lancé que 4 en avril et mai dernier, et un seul a effectivement réussi à s'envoler correctement. En fait, ce quadruple test de tir, clairement annoncé par Pyongyang, pourrait être aussi l'occasion pour les Américains et les Japonais d'eux-mêmes tester leur système de défense antimissile. Le Japon dispose de 6 destroyers équipés du système antimissile Aegis, susceptible d'intercepter les vecteurs nord-coréens durant leur sortie de l'atmosphère. Et sur l'île de Guam, les Américains disposent pour leur part de plusieurs systèmes antimissiles, notamment le THAAD, qui n'a jamais intercepté pour le moment que des missiles d'exercice. Cette fois, ce sera l'occasion ou jamais d'opérer en conditions réelles.
Merci Eric Biegala pour toutes ces précisions. En Russie, 2 jours après sa sortie de prison, l'opposant au Kremlin Sergueï Oudatslov a appelé toutes les forces de gauche à se réunir pour ne proposer qu'un seul candidat à l'élection présidentielle de l'an prochain. Oudatslov vient de purger une peine de 4 ans et demi de prison pour avoir organisé une manifestation qui avait dégénéré avec les forces de l'ordre. C'était en 2012. Jean-Didier Revoin, vous avez assisté à la première prise de parole de cet opposant.
Lors de sa première apparition publique après sa sortie de prison mardi, l'opposant Sergueï Oudatslov a montré que sa détermination n'avait pas faibli malgré les 4 ans et demi qu'il a passé en colonie pénitentiaire. Le coordinateur du Front de Gauche a déclaré lors d'une conférence de presse à Moscou qu'il souhaitait l'union de toutes les forces de gauche du pays, qu'elles soient représentées au Parlement ou non. Il veut aussi qu'elles organisent une primaire de façon à ne présenter qu'un seul candidat à l'élection présidentielle qui aura lieu en mars prochain. Il a balayé de la main un éventuel rapprochement avec les principales figures et organisations d'opposition en Russie, au motif qu'elle flirte avec l'Occident. Même s'il apprécie la politique étrangère menée par Vladimir Poutine, qu'il a qualifié de patriotique, Sergueï Oudatslov, qui se définit lui-même comme un patriote, conteste en revanche l'action du président russe en matière économique, le cours néolibéral actuel menant selon lui à une impasse. Il n'est pas tendre non plus avec l'opposant et chantre de la lutte contre la corruption, Alexei Navalny. À ses yeux, ce dernier se livre à des actes de provocation qui se traduisent par l'arrestation de milliers de personnes. Navalny n'est pas mon candidat, je ne ferai pas campagne pour lui, a précisé le coordinateur du Front de Gauche, qui affirme ne pas vouloir être candidat à la présidentielle. Il a néanmoins appelé ses partisans à manifester le 7 novembre prochain, anniversaire de la révolution de 1917, une date qu'il a qualifiée d'importante pour toutes les forces de gauche du pays.
Correspondance à Moscou, signée Jean-Didier Revoin. La météo de votre vendredi matin, alternance de nuages et d'éclaircies quasiment partout en France, avec des ondées sur une grande moitié est. Seul le littoral méditerranéen sera épargné avec un grand soleil et les températures. Il fera 16 à Cherbourg et Strasbourg, 18 à Lille, Lyon et Bordeaux, 22 à Marseille, 26 à Ajaccio. Journal préparé avec Caroline Beneteau à la technique, c'était Jacques Azubert.